semaine dernière, vous avez peut-être manqué la sortie du livre « La Belle au bois d'ébène ». Tous les acteurs de ce projet étaient réunis aux poches de Béthune pour célébrer la fin de cette belle aventure. C'est un petit bijou d'humanité proposé par l'association Colère du Présent. Comprenez que ce livre est une œuvre collective faite par des hommes plus souvent cachés que mis en avant. Ces auteurs sont les SDF du centre d'hébergement du phare de Béthune. Pendant 3 mois, ils ont participé à un atelier d'écriture. Jean-Pierre Lemaître est l'un de ces auteurs.
On était un groupe avec plusieurs accueillis du phare. On a choisi d'abord le thème, alors on a choisi un policier. Monsieur Ricardo Monserol, écrivain, c'est lui qui notait, c'est lui qui écrivait, parce que nous autres, on donnait que des idées.
Les idées, ça pouvait venir de tout le monde,
les idées, ça venait de tout le monde, du moment que les lignes suivaient, quoi. On faisait le bouquin, mais sans écrire. Et j'étais incapable d'écrire un livre. Hein.
Et est-ce que vous avez lu le livre ?
J'ai lu tous les extraits dans le journal.
Et vous avez été surpris ou ça correspondait à vos idées, ce qui avait été donné pendant l'atelier ?
Ça correspondait avec ce qu'on avait dit.
Donc c'est une belle expérience pour vous ?
Oui, c'était bien. Je renouvellerai, pas de problème. Peut-être sur un autre thème, mais bon, ça m'a vraiment plu, ouais.
Et pour mieux comprendre l'enjeu de ces ateliers d'écriture, le directeur du phare a fait ce soir-là un discours éloquent, Jean-Louis Yel.
Il y a environ 150 ans, la grande majorité de la population française ne maîtrisait pas l'écrit. Pour autant, chacun trouvait sa place dans la société. En 1998, la loi relative à la lutte contre les exclusions présente de façon explicite la non-maîtrise de l'écrit comme un facteur d'exclusion sociale. Beaucoup de jeunes qu'on accueille et de moins jeunes ont souvent été en échec scolaire et associent majoritairement l'écriture à une activité scolaire. À l'atelier, les jeunes ou les moins jeunes se libèrent de ces stéréotypes paralysants. L'atelier propose aux personnes en difficulté des outils pour changer leur regard sur l'écrit, ne plus l'associer à l'école et en faire un outil de vie. Il permet de reprendre confiance en soi, de s'approprier la langue. Ici, pas de notes, pas de jugement. Nous pensons que la culture, l'expression littéraire ou artistique ne doit pas être réservée à une élite, que chacun a quelque chose à dire, que le dessin, l'écriture, la peinture peuvent changer notre regard, peuvent laisser parler nos envies, nos colères, notre imaginaire, notre sensibilité, nos rêves. L'atelier d'écriture nous oblige à bousculer l'idée préconçue de l'écrivain d'un côté et le reste du monde de l'autre. C'est précisément cela que l'atelier bouscule.
Bousculer les clichés, bousculer ceux qui ne voient pas en chaque homme la possibilité d'accomplir de grands projets, c'est ce dont l'écrivain Ricardo Monserrat s'attache à faire depuis longtemps.
Il y a un dicton qui dit « Une démocratie n'est forte que de son maillon le plus faible ». Vous voyez, comme une chaîne n'est forte que de son maillon le plus faible. La chaîne peut être en platine, dans le métal le plus résistant, s'il y a un maillon qui casse, le bateau part à la dérive. Je le crois volontiers, vous savez, mes parents sont arrivés en 1939 en France, en exil, ils avaient tout perdu. Donc ils arrivaient d'une guerre, il y a eu une autre guerre, et puis ensuite ils ont connu une guerre encore pire que les franquistes et les nazis, la guerre de l'indifférence, de l'égoïsme. Et pendant des années, mes parents et leurs amis espagnols ont vécu dans une misère noire, mais noire. Je ne comprenais pas comment on pouvait laisser des gens aussi beaux, aussi extraordinaires, mourir comme ça à petit feu, jour après jour. Du coup, j'ai décidé de... La moitié de ce que je vivrais serait dédiée à ceux qui sont dans la merde.
En quoi ça aide ces gens d'avoir des idées, de vous les donner ?
Alors, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas les gens que ça aide. C'est la société que ça aide. Donc, voilà des gens que, tout d'un coup, on qualifie de SDF, clochard, exclu, misérable. Tout d'un coup, on les traite moins bien qu'on traite son chien. En oubliant, mais vraiment en oubliant, que cette personne-là, avant de tomber, a été un enfant, un amoureux, un homme, un travailleur, une travailleuse, a été une personne à part entière. Et moi, je ne l'oublie jamais, donc je sais qu'avec cette personne-là, je peux lui demander, comme à n'importe quelle personne, d'écrire, de peindre, de créer. Et on l'oublie, vous vous rendez compte ? On oublie que ces personnes-là sont capables. Je me souviens de quand on a commencé cet atelier, on m'a dit, mais gentiment, d'ailleurs, sans malice, on m'a dit, Si ça tient une journée, ce sera formidable. Si ça tient deux journées, ce sera extraordinaire. Je n'ai pas eu de problème de concentration. Ils étaient là, ils étaient dedans, ils discutaient philosophie, sociologie, jusqu'à l'intérieur, mine de rien. Derrière ces histoires, il y a ce qu'ils imaginaient que les gens penseraient d'eux, les auteurs. Mais il y a des choses qui sont plus symboliques que d'autres. Faire un livre avec des gens. Ça, normalement, c'est réservé à des gens qui ont Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4. Mais il n'empêche que le feuilleton est paru dans le journal. Et donc, les gens ont pu vivre avec les personnages inventés par eux. Ils étaient plus vivants au jeu des gens que leurs auteurs. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Vous avez dit un beau mot, vous avez dit auteur, et c'est marrant parce que moi j'ai posé quelques questions à cet auteur et qui lui au contraire m'a dit non, non, nous on a juste donné des idées et c'est lui l'auteur. Donc comment ça se passe en atelier ?
Alors, oui mais ça c'est eux ça, ils sont vraiment les co-auteurs. Là en l'occurrence, moi j'ai fonctionné dans deux rôles, l'accoucheur et le monteur, et constamment tout du long du feuilleton. Nous avons utilisé l'actualité, le braquage du PMU. Les SDF, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et donc, ils ont des idées. À partir de ces idées-là, naissent des personnages, naissent des débuts d'histoire. Puis après, dès qu'on a lancé quelque chose, il faut tirer, quoi. C'est-à-dire, on lance un personnage, il faut le faire vivre. Je pense à un des auteurs, là. Le garagiste qui crame dans la caravane, bien sûr, il est très près de ce qu'il a été. Quand il crame avec sa caravane, en même temps, on sent bien que symboliquement, pour lui, c'est une façon de brûler, de faire disparaître toute une partie de sa vie. Donc il y a tout un tas d'enjeux comme ça qui se jouent pendant la discussion. Là, c'est un atelier où on a peu écrit, effectivement. Moi, j'ai beaucoup tapé, mais peu écrit, où ils ont dicté. Je ne vais pas dire autre chose, c'était ahurissant. Ils ont compris que le roman est un espace de liberté, où tout est permis, on peut mourir, on peut revivre, on peut baiser, on peut faire l'amour, on peut gagner le loto, on peut braquer le PMU, on peut rencontrer une fille, voilà, de rêve au bord de la route. Et quand ils ont compris cela, oh là là, le roman s'est lâché. Et donc c'était important, franchement, que ce livre soit un véritable espace de liberté.
Et de la liberté, il y en a. La Belle au bois d'ébène est un polar truculent qui vous plonge au cœur de Béthune. Ouvrez ce livre et laissez-vous embarquer dans une folle aventure où des personnages hauts en couleur affrontent la vie et ses déboires. Rien de tel qu'un extrait pour vous donner une idée. Une interprétation du collectif de l'anonyme. La comédienne est accompagnée d'un bruiteur, alors tendez l'oreille.
La neige tombe doucement sur Abra et les jumeaux pendus à ses seins. S'abritant tant bien que mal sous l'arche du pont de chemin de fer, elle regarde les pompiers arroser les braises du mobilhome dans lequel elle vivait depuis 2 ans avec Gérard Lambert. Un jeune pompier, un blondinet avec de curieuses lunettes rondes, s'approche d'elle et lui tend une tasse et un sourire désolé. Tenez, buvez, c'est chaud. « Vous viviez seule là-dedans ?» La jeune Angolaise ne répond pas. Le brasier a été si intense qu'il ne reste rien de son brave homme de mécanicien Gérard Lambert. Ils s'étaient rencontrés sur la 26. Elle faisait du stop pour se rendre en Angleterre. Ils s'étaient adoptés pendant des mois. Une nuit, qu'il faisait froid, ils s'étaient réchauffés. Ils s'étaient aimés tout bêtement. Elle n'avait manqué de rien. Et lui, du moment qu'elle était heureuse, que les petits disaient en cœur papa, il était heureux. L'amour les avait trahis sans temps. Après le café brûlant, il s'était fait un câlin pour se réchauffer. Elle s'était agrippée à la cuisinière. Le bouton avait dû tourner. Quand il avait allumé une cigarette, boum, la robe de chambre qu'elle lui avait offerte à Noël avait pris feu. La barbe et les cheveux qui lui donnaient un petit air de Père Noël s'étaient embrasés. Il avait juste crié, les petits sauvent les petits, je t'aime. Le temps qu'elle sorte, le camion était une torche. Le jeune pompier interrompt sa rêverie. Moi, c'est pas Gégé, c'est François Henri. Mais les copains m'appellent Babouze. Il lui tend un gros blouson de cuir. Mettez cela, c'est à ma collègue. Elle va vous accompagner au commissariat, vous leur raconterez ce qui s'est passé. La police ? Oh non, je ne veux pas qu'ils me ramènent là-bas. Elle s'enfuit, sans que le pompier aux lunettes rondes tente de l'arrêter. Elle ne pense qu'aux enfants. Déjà qu'avec ce froid, les jumeaux ont attrapé du mal. Les médicaments sont restés dans le brasier. Elle dépose les bébés à la crèche du CHRS. Ils se sont endormis après la tétée. Je vais à la pharmacie et
et j'y reprends après mes heures de ménage, promet-elle à la jeune Antillaise qui est servie ce matin. Prends ton temps, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu ne vas pas nous trouver malade, toi aussi. Tout le monde a la grippe en ce moment. Le pharmacien ne veut rien savoir. Pas d'argent, pas de médicaments. Il reste sourd à sa détresse. Elle pénètre dans le PMU. Elle y connaît du monde. Gérard a donné les jeux de hasard. Il trouvera bien quelqu'un pour l'aider. Le patron, un vrai bœuf qui regarde les étrangers qui fréquentent son établissement comme s'il puait du bec, trinque avec ses potes. On n'a jamais fait un week-end comme ça. Rien que sur le prix d'Amérique, j'ai fait au moins 1 million. On dit que les gens n'ont pas de fric. Regardez-moi ça. Braille-t-il en ouvrant une caisse métallique et en brandissant un bordereau. Je vais offrir à mes mères le Sénégal depuis le temps que je lui promets. En trois enjambées, Awa traverse le bar, nous fume le taulier, lui arrache la caisse et repart en courant. Courir, elle sait. Quand elle était étudiante, elle faisait partie de la sélection angolaise de l'équipe d'athlétisme. Elle saute par-dessus les tables, comme elle sautait par-dessus les zigzag entre les bateaux de la rue piétonne, prend un passage entre deux immeubles, s'arrête pour réfléchir. Il faut qu'elle cache la patte. Une poubelle, trop risquée, au-dessus de la cabine téléphonique. Parfait. Monsieur, aidez-moi si tu as des choses à boire. N'a pas le temps d'achever sa phrase, qu'un gros lard la retire par les cheveux et lui colle deux mandales. Avec une violence telle qui lui fend les lèvres. Mon fric Blanche-Neige, où tu l'as mis? Joachim stoppe le bras tatoué d'un 88 qui s'apprête à cogner à nouveau sur le beau visage de l'Africaine. On parle pas comme ça aux dames. Toi le Portos, tu la bouffes. Réponds le gros en se retournant. T'es pas chez toi. La chose a perdu. Un hypercute, un crochet du droit. Le bœuf se retrouve sur le pavé, chaos.
Joachim la soutient jusqu'à l'arrière-boutique. Awa, encore saoulée par le bœuf, se laisse faire. Il lui lave le visage avec une compresse humide. Il apporte un café brûlant. Subitement, elle se lève. Elle se retourne vers ce Français, trop bien coiffé, trop bien habillé, qui comprend ce qu'elle dit. Il n'a pas l'air méchant. Elle lui explique tout, dans un français mêlé de portugais. Elle oublie de lui parler du PMU. Les bébés, quel bébé? Elle lui explique. Ne bougez pas, ordonne-t-il. Je vais les chercher. Prenez une bonne douche, il y a des serviettes. Reprenez les forces, j'en ai pour 10 minutes. Je ferme derrière moi, n'ouvrez à personne.
Pour connaître la suite, il faudra vous procurer le livre. Le dessinateur Babouze a rejoint la fine équipe des illustrations glissées au fil des pages qui vous feront glousser bêtement, quitte à être pris pour un fou dans la rame de votre train. Babouze nous raconte pourquoi il s'est lancé dans cette aventure.
C'était un projet que j'aimais bien. Ça m'a toujours sidéré de voir des gens dans la rue et de me demander, mais merde, si ça tombe, c'est un prix Nobel en puissance qui n'a pas eu de bol et qui se retrouve là. Et si ça tombe, ce type-là, c'est une mine d'or. Ou alors, je sais pas, ça peut être un brillant écrivain ou un super prof ou un super peintre. Et donc, je trouvais ça vachement chouette qu'on puisse faire participer des gens à autre chose qu'un atelier cendrier en pâte à modeler pour caricaturer un petit peu. Puis je connaissais déjà bien Ricardo Montserrat, on avait déjà travaillé ensemble. J'ai beaucoup d'estime pour lui, je connais bien son travail, j'ai déjà vu en atelier, il est quand même balèze. Puis je connais bien aussi l'association Colère du Présent, on travaille souvent ensemble. Tout était réuni pour que je vienne sur le projet.
C'est facile pour vous de trouver, disons, la réplique exacte de ce qui est écrit?
C'est une gymnastique en fait, c'est ce que j'explique souvent, c'est quelqu'un qui veut bien jouer au foot, s'il tape dans le ballon tous les jours, à mon avis, au bout d'un moment, il viendra bon au foot, ça sera naturel pour lui. J'ai jamais été foutu de le faire moi, mais au niveau du dessin, je le fais tous les jours. C'est vrai que c'est pas si évident que ça, mais c'est assez facile quand même.
Un polar qui n'aurait pas pu naître sans la passion d'un homme, Didier Andreau, président de l'association Colère du Présent. Son but, développer et promouvoir une littérature accessible à tous.
C'est une association qui essaye de faire se rencontrer des auteurs, des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de les rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé dans cette aventure. Donc là, c'est la fin d'une première aventure. En 2011, c'est une opération qui s'appelle Béthune 2011, capitale régionale de la culture. Donc sur la base de cette première expérience, nous avons lancé l'idée d'aller plus loin dans les ateliers
et donc de démultiplier ces ateliers sur le territoire de Béthune et la communauté d'agglomération. Nous avons lancé l'idée d'une collection complète de livres. Là, c'est un livre. L'idée, c'est de lancer une collection qui aurait ce même principe, qui serait écrit par des gens. On a commencé un atelier d'écriture avec l'association des mineurs marocains du Pas-de-Calais. On va faire un nouvel atelier avec les gens du Phare. On va aussi travailler avec la Maison des Jeunes d'Oudin. On va aussi travailler avec l'Union Locale CGT. Et il y aura des ateliers aussi avec des syndicalistes. Ce sera des collectifs d'écriture différents. Et pour l'occasion, nous avons inventé deux personnages, les aventures de Nour et Norbert.
Encore un beau projet pour l'association Colère du Présent qui nous a offert un petit bout de Nour et Norbert.
C'est l'histoire d'une jeune fille, Nour, française, d'origine marocaine, fille de mineur et petite-fille d'anciens combattants, et de Norbert, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de mineur, syndicaliste et résistant, qui se rencontrent dans un cimetière qui vient d'être vandalisé. Ils vont ensemble remonter l'histoire de trois mineurs marocains, le gentil Yaya, le géant Badou et l'irascible Baraba, et de Joseph, un syndicaliste d'origine polonaise, pour comprendre ce qui les a tués tous les quatre. Ils rencontreront les témoins de l'époque, croiseront des marchands d'hommes, des médecins sans scrupules, des politiciens aveugles, des fonctionnaires corrompus, tous complices d'une énorme escroquerie, d'un crime contre l'humanité et la dignité. Ils trouveront aussi des témoignages du courage, de la résistance, de la noblesse d'une classe ouvrière qui jusqu'au bout se sera battue. Ils comprendront aussi pourquoi le silence a recouvert cette histoire d'une chape de plomb et de mensonges. Tant des années après la fermeture des mines, certains ont continué à se faire de l'argent sur le dos de ceux qu'ils ont traités comme des moutons de boucherie. Ont continué à tricher, mentir, truquer. Nour et Norbert n'auront qu'une idée en tête. Venger leur père et faire connaître à tous la vérité.